Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée aux jeux Little Big Adventure et Little Big Adventure 2, sortis en 1994 et 1997 sur PC et développés par Adeline Software. Il sera observé de quelle façon les attitudes que le joueur peut faire prendre à son personnage influencent l'identification du premier vers le second au regard d'autres jeux d'action-aventure, et notamment d'Another World, de Flashback et d'Apes Odyssey.
Première partie, présentation et problématique.
Mon enfance vidéoludique fut loin d'être exceptionnelle, et je ne peux guère me targuer d'avoir fait mes classes sur d'obscurs logiciels connus que d'une poignée de collectionneurs. Mes héros puérils s'appelaient Mario et Zelda, Donkey Kong. J'étais de l'écurie Nintendo avant toute chose. Sur micro-ordinateur, ce seront surtout les jeux d'aventure point and click de LucasArts qui m'auront fait grandir. Le reste, tout le reste, je le découvris bien plus tard, grâce à l'émulation, et je rattrapais mes carences, et je trouvais des classiques oubliés et des perles cachées. Il est, néanmoins, une série que je me défends d'avoir connue à son époque et qui a forgé, plus que d'autres, mon goût futur pour le média. Elle est loin d'être anonyme, et sa renommée, en France ne serait-ce car il s'agissait d'un jeu tricolore, était réelle. Elle a cependant doucement disparu des mémoires, raison pour laquelle j'espère lui redonner aujourd'hui un peu de patine. Little Big Adventure. Les deux Little Big Adventure sont des jeux d'action-aventure en 3D isométrique. On y contrôle Twinsen, une créature humanoïde dans un univers mêlant fantastique et science-fiction, et on devra l'aider à renverser un tyran ayant pris en otage la totalité d'un peuple. Ce qui démarque notablement ces jeux du reste, outre son parti pris graphique charmant, la 3D isométrique est au service d'un rendu plastique très particulier, on jurerait voir là des villages de Playmobil, la qualité générale de sa réalisation et son écriture intelligente, malgré le convenu de son point de départ, c'est un intéressant choix de gameplay que je ne pense pas avoir vu reproduit, ou bien pas en tant que tel, dans d'autres jeux du genre. Le choix entre quatre attitudes qui déterminent la résolution des énigmes que les jeux proposent. Ainsi, en addition des mouvements et des capacités d'action attendues, comme discuter avec les passants ou lire les panonceaux, utiliser une arme, ici une balle magique qui rebondit et revient toujours à Twinsen, les développeurs ont inclus un menu atypique qui permet aux joueurs de choisir pour le héros quatre attitudes distinctes et appelées normal, sportif, agressif et discret. Il y a ainsi une répartition entre ces quatre modes d'action des gestes que d'autres jeux choisissent de dédier à une touche en particulier. Ainsi, seul le mode normal permet de marcher, de lire et de discuter. En sportif, on ne peut que courir et on peut à présent sauter. Le mode agressif augmente les dégâts infligés, tandis que discret nous fait marcher à pas de loup et nous autorise à nous dissimuler derrière des murets pour échapper aux regards ennemis. Ce système demeurera globalement le même par la suite. Si ce n'est que le second épisode nous autorise à présent de lire et de discuter quel que soit le mode choisi, alors qu'il fallait nécessairement revenir en mode normal dans le premier épisode pour cela. Ce choix m'a toujours intrigué, et je sais qu'il a autant ses détracteurs que ses amateurs. In fine, tout ce que peut faire le personnage est commun à tous les autres jeux du genre. Attaquer, sauter, courir, lire, voire avancer à pas mesurés, ce sont des choses que l'on trouvait déjà dans Prince of Persia ou Another World, dans Flashback ou que l'on retrouvera dans Apes Odyssey. Mais là où ces jeux nous autorisent à effectuer ces actions en ne poussant qu'un bouton, en le maintenant parfois, Little Big Adventure, à de rares exceptions, compartimente ses gestes dans des sortes de familles de comportements, semble cloisonner et séparer ses éléments. Il y a comme quelque chose de prémédité à notre action. Il ne s'agit pas uniquement de courir, mais de faire le choix conscient de devenir sportif. Certes, cela fragmente particulièrement l'expérience, mais cela la rend, nous semble-t-il, beaucoup plus signifiante. C'est cette particularité qui sera au cœur de notre analyse, et nous tâcherons de répondre à cette problématique qu'implique le choix décidé du mode de jeu dans Little Big Adventure au regard d'autres jeux d'action-aventure.
Deuxième partie, jeter, projeter, rejeter.
Nous avons plusieurs fois évoqué l'idée d'identification du joueur et de son avatar dans le cadre du jeu vidéo, notamment dans notre 13e épisode sur la série Donkey Kong Country, ou encore le 17e, sur Killer Instinct. Et nous avons autant de fois désamorcé cette idée préconçue. En revanche, nous souhaiterions évoquer le concept de projection, qui nous semble bien plus intéressant et, du reste, plus pertinent non seulement pour analyser l'investissement émotionnel qu'un jeu peut nous offrir, mais également pour relier cet investissement à tous les autres types de réseaux de signes que nous pouvons identifier. On ne peut nier effectivement que certains jeux et certains moments de ces jeux nous feront sentir, manette en main, des émotions bien différentes que celles d'un film, d'un livre ou d'une pièce de théâtre. Et on ne peut pas plus nier que l'interactivité première du média jeu vidéo a nécessairement un rôle à jouer dans ce phénomène. En revanche, dans la mesure où le joueur ne confond jamais monde réel et monde virtuel, et qu'il est capable de se détacher très facilement même de son double numérique, il est malheureux de parler d'identification. Nous substituons alors ce terme à celui de projection, en nous inspirant notamment sur des traités d'analyse filmique, à l'instar des travaux de Jacques Aumont. Nous définirons ce faisant la projection comme un geste visant à douer de conscience un avatar numérique et à lui prêter une volition identique à celle d'un être humain contemporain. Bien que cette première définition soit relativement évidente, il nous faut la déplier quelque peu pour en saisir toutes les implications. Nous reviendrons notamment sur trois termes, celui de geste, celui de conscience et celui de volition. Par geste, nous entendons un mouvement volontaire et programmé. Il a une origine humaine et préparée, et est lancé afin de remplir un but explicite, quand bien même le résultat obtenu serait-il différent de cet objectif ou inattendu. Par conscience, nous retenons ici une partie nécessairement tronquée et parcellaire de ce qui pourrait fonder la complexité de nos esprits communs. Notamment, nous ne considérons que la faculté de se positionner sur des spectres moraux et axiologiques et de déterminer si une action est juste ou injuste, bonne ou mauvaise, et ainsi de suite. Par volition, nous reprendrons la définition traditionnellement allouée et considérons alors qu'une volition précède un geste en tant que manifestation volontaire d'une action. Autrement dit, notre définition de la projection part du geste pour aller au geste. Mais tandis que la notion d'identification superposerait ces deux actions, la projection établit une procédure de traduction. En elle-même, la projection n'est jamais qu'une variante de la notion de conventionnalisation de la commande de jeu, dont nous avions parlé dans notre émission dédiée à Don't Starve et Oxygen Not Included, et dont le même contemporain, Press F to Pay Respect, en est l'illustration la plus belle. Et de la même façon qu'il y a traduction entre le fait d'appuyer sur un bouton pour le joueur aux mains et le fait pour Mario de sauter, il y a pour nous également traduction entre choisir une option morale pour le joueur et la traduire dans l'univers du jeu. Nous avions abordé cela dans notre épisode sur Fallout, 15e épisode. Nous le reprenons ici en généralisant les réflexions que nous avions menées alors. indépendamment des questions relevant du cadre conceptuel dans lequel les valeurs de bien et de mal existent, et leur correspondance dans le schéma action-récompense des jeux vidéo, il convient de saisir que toute traduction d'un choix moral ne peut être que faussée. Cela est d'autant plus dommageable que les jeux vidéo nous demandant de faire de tels choix se développent notablement ces dernières années, à l'instar de The Walking Dead jusqu'à Detroit Become Human. Mais cela explique également pourquoi ces tentatives sont nécessairement vouées à l'échec, et ce bien que le jeu vidéo puisse être, au même titre que n'importe quel autre média, un formidable vecteur de réflexion sur ces questions. Ce qui pêche ici, c'est l'impossibilité, humainement malheureuse par ailleurs, d'établir un cadre moral universel qui permettrait à un choix quelconque d'être toujours bon ou mauvais. Blaise Pascal déjà, en ses pensées, en évoquant la frontière des Pyrénées, a su expliquer cela bien mieux que je ne pourrais jamais le faire. Partant, faire un choix moral en toute connaissance de cause, pour reprendre l'expression consacrée, c'est connaître l'état sociétal dans lequel le choix prendra place. Malheureusement, la chose est impossible dans le cadre du jeu vidéo, comme il l'est d'ailleurs dans le cadre littéraire ou cinématographique, puisque le cadre présenté dans l'univers de la fiction est, de prime abord, partiel, d'autre part, étranger à notre expérience sensible. En réalité, moins que des choix moraux, nous aurions ici davantage des sortes d'expériences de pensée, presque des métaphores socratiques relevant qui du mythe de la caverne, qui de l'anneau de Gygès, soit des déplacements, pour reprendre l'origine grecque du mot, qui, en grossissant certains aspects, nous permettent de mieux atteindre la vérité ou, ne serait-ce, nous faut comprendre sa complexité. Le principe de métaphore, cependant, est par définition étranger à toute perspective réaliste qui conditionnerait la prise en compte de choix. On ne peut donc, dans une œuvre de fiction, à la fois exiger de produire un choix moral et, de l'autre, construire les conditions conduisant à ce choix. Nous mettre face à un dilemme actif dans une œuvre de fiction, c'est faire un choix en fonction de ce que nous connaissons de notre monde réel et donc agir comme si, plutôt que en toute connaissance de cause. Construire des conditions de réalisation de ce choix, ce serait aller du côté de la métaphore et de ne plus créer de dilemme actif. Encore une fois, ce n'est pas à dire que le jeu vidéo est incapable d'opérer des réflexions poussées sur la justice, le bien ou le mal, nombre le font sans nous demander d'opérer des choix moraux, de The Stanley Parable à Metal Gear Solid. Mais que ceux qui architecturent leur existence sur ces choix ne parviennent, pour ainsi dire, jamais à les rendre signifiants.
Troisième partie, l'inné et l'acquis.
Il y a cependant un moyen de proposer une expérience sensible aux joueurs de façon active sans passer par la réflexion morale ou axiologique. Il suffit de s'engager dans ce qui ressemblerait à des expériences humaines universelles, non seulement partagées par tous les individus dont nous sommes les contemporains, mais également par nos ancêtres et par nos descendants. Il y a effectivement des comportements, des phénomènes et des réactions, des gestes, qui transcendent toutes les cultures et qui, malgré d'évidentes exceptions, peuvent prétendre à l'universalité. Ce sont des choses qui peuvent paraître simples, très loin de tous les pensums philosophiques, voire, mais on ne saurait les prendre en défaut. Ce sont des choses, peut-on dire, d'innées. C'est la faim et la soif, la peur du noir, grelotter de froid, transpirer de chaud. C'est le réconfortant d'une caresse, l'agressivité face à l'injustice ou au danger. Ce sont des choses à la frontière entre l'humain et l'animal, et je laisse volontiers aux penseurs nous dire qui appartient à l'un, qui appartient à l'autre. Mais ce sont des actions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour fournir des expériences qui nous parleront nécessairement. Si nous isolons alors ce qui appartient à l'ordre des réflexes, de cette façon qu'a le corps d'agir sans notre consentement, ce qui n'est donc pas un geste, selon la définition que nous avons donnée, il nous reste cependant un corpus de gestes qui ont été exploités quant à eux par toute une catégorie de jeux vidéo, dont Little Big Adventure serait, si l'on veut, le cousin véritable et que l'on pourrait appeler les Cinematographic Platformer. Arbitrairement, nous situerons l'origine du genre à Prince of Persia, l'original, sur micro, et nous inclurons là-dedans des jeux comme Another World, Heart of Darkness, Flashback ou encore Abe's Odyssey. Nous les définirons comme des jeux de plateforme en deux dimensions qui privilégient le défilement par écran fixe ou encore par tableau et qui mettent l'accent sur l'agilité du personnage contrôlé. Ces jeux se focalisent ainsi sur la résolution d'énigmes et de labyrinthes, et moins sur l'affrontement avec des adversaires, quand bien même seraient-ils présents. Il y a cependant souvent une façon ou bien de les contourner, ou bien de les éliminer discrètement, l'affrontement direct étant soit désavantageux pour le joueur, soit particulièrement long et délicat. Ces caractéristiques fondamentales de gameplay ont alors invité les développeurs à se concentrer sur l'apparence réaliste de leurs personnages, qui ont, partiellement ne serait-ce, une gamme d'actions atypiques ou, du moins, peu rencontrées dans les autres jeux de plateforme. Nous avions parlé jadis du langage dans la saga Oddworld dans notre troisième épisode, qui est de ce ressort. Mais on évoquera également des sauts généralement peu amples à l'aune de ceux que peuvent réaliser les êtres humains de notre monde, ainsi que la faculté consciente de marcher, de courir, et de marcher à tâtons ou discrètement. Tous ces éléments font partie de ces expériences humaines universelles. Tous les humains ont besoin de communiquer, la marche est notre mode de déplacement premier, l'on court pour aller vite, l'on est sur la pointe des pieds pour se faire discret. Ces différents modes de marche méritent cependant que l'on s'y arrête dans le cadre du jeu vidéo. Comme nous le disions effectivement, et jadis tout comme en prenant l'exemple de la cigarette dans Metal Gear Solid dans notre deuxième épisode, le jeu vidéo ne peut singer la réalité. Il ne peut offrir qu'une interprétation de celle-ci et l'insérer dans la logique action-récompense constitutive de son économie. Partant, exiger du joueur par l'intermédiaire de son avatar, qu'il aille sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit, ce n'est pas réellement être discret. C'est imiter un code, un signe du monde réel pour le transcrire en signe vidéoludique, de la même façon qu'un ménate ne saurait parler une langue humaine, mais imiter des sons entendus et qui reproduisent la parole humaine. De la même façon qu'un signe vidéoludique ne peut avoir de valeur que si et seulement si mis en réseau avec d'autres, un signe de notre réalité n'a de valeur que de la même façon. Et marcher doucement pour ne pas faire de bruit n'a de sens dans notre monde que si nous comprenons ce qu'implique l'idée de faire du bruit en marchant, si nous anticipons la réaction de nos contemporains ce faisant, les situations dans lesquelles ce geste sera utile ou non. Nous le comprenons dans le cadre d'un film d'espionnage sans difficulté aucune. Mais pour Mario, pour que Mario, mettons dans Super Mario Bros, le fasse, il faut l'inclure dans un réseau de signes qui fasse sens.
Quatrième partie, le goût de l'ensemble.
C'est alors, on peut le deviner, le choix qu'opère Little Big Adventure quant à ses problématiques. Plutôt que de simplement proposer un signe silencieux et un signe course, et de chercher à les faire cohabiter et coexister, les développeurs ont davantage fait le choix de les regrouper, pour ainsi dire, dans des entrées thématiques librement sélectionnables par le joueur. Partant, cela permet de compartimenter nos approches de jeu, Little Big Adventure assurant de proposer autant de liberté que possible. Seule exception dans le premier épisode, le saut, nécessaire pour progresser, est bloqué derrière le comportement sportif. Il sera finalement accessible indépendamment du comportement choisi dans la suite, les développeurs comprenant ou nous faisons comprendre que la capacité de sauter fait davantage partie du signe universel du jeu vidéo, du moins du jeu de plateforme, et qu'on ne saurait davantage le rattacher à un certain réseau de signes plutôt qu'à un autre. Quelque part, ces comportements dans Little Big Adventure ne sont pas sans faire penser sémiotiquement à une feuille de caractéristiques d'un jeu de rôle, comme ceux que l'on trouve dans Fallout ou Fallout 2. Différence étant, là où ces jeux obligent, au début de leur économie, de diriger nos efforts vers telle ou telle idée, guerrier, barde et que sais-je, souvent sans possibilité marquée de changer de direction, Little Big Adventure autorise à modifier à la volée le comportement choisi, entre la discrétion et l'agressivité, l'énergie ou la normalité. Cela peut, certes, empâter la projection que nous pourrions construire en élaborant un avatar approchant notre propre personnalité, mais cela amplifie néanmoins la fibre réaliste que ces cinématographiques platformers cherchent à entretenir. Ces jeux embarquent ainsi une sorte de paquet sémiotique, choisissent de sélectionner non pas un signe, mais le réseau dans son intégralité. Faisant cela, le jeu construit son univers séquentiellement et non plus progressivement, comme d'autres jeux de cette catégorie. Plutôt, dès lors, de sélectionner uniquement tel ou tel geste de notre réalité pour le transposer dans un univers de fiction, ce qui ne peut nécessairement qu'aller avec des questions relatives aux choix opérés par les développeurs et aux absences délétères. Pourquoi ne pas avoir limité les dialogues à quelques mots dans Oddworld ? Pourquoi ne pas proposer de ramper dans un Otherworld ou que sais-je ? Little Big Adventure sélectionne un univers complet et comme clos sur lui-même, une boîte de pétri dans lequel, certes, les actions proposées sont loin d'être infinies comme dans notre propre réalité, car toujours dépendante du cadre limité du jeu vidéo dans lequel elle s'illustre, mais néanmoins renfermée sur elle-même. On songera, ne serait-ce, à la façon dont ces différents jeux nous présentent, dans leurs tout premiers instants, l'univers dans lequel ils prendront place. Prince of Persia se situe dans un palais et ses caves. Another World joue, à dessein, la carte du mystère. Oddworld ne nous présente initialement que l'usine de Rupture Farms et rien de plus. En revanche, Little Big Adventure commence par une introduction assez longue, nous présentant tout l'univers. La planète Twinson, ses deux soleils et sa chaîne de montagnes équatoriales. Le tyran Funfrock, la religion interdite, les peuples et tout ce qui s'ensuit. Finalement, l'on ne verra que peu de choses inédites dans la suite du jeu, tout n'étant jamais qu'un développement de ce monde initial. Encore aujourd'hui, rares sont les jeux d'action-aventure qui proposent ce type d'introduction, à l'exception, une fois encore, des Fallout, ce qui tend bien à montrer que ces différents signes, plutôt que ces différents réseaux de signes, sont bel et bien en interaction. Ce que nous offrent alors ces jeux, c'est une projection parfaite, une mécanique du geste. Offrir une conscientisation, une implication sincère et totale dans ce qui serait un univers créé de la façon la plus complète qu'il soit. Cette complétion, qui s'appuie bien sûr beaucoup sur notre propre réalité, est cependant atteinte non pas en fragmentant et en sélectionnant précautionneusement ce que l'on retient de notre univers, mais en présentant ce nouveau monde comme un tout dans lequel rien n'a été oublié. Pour reprendre un mot stendhalien, choisir, c'est exclure. Aussi, en présentant l'univers comme étant une totalité, en montrant que les créateurs n'ont rien choisi, c'est incidemment nous faire croire qu'ils n'ont alors rien exclu. Chaque action de gameplay devient signifiante, immédiatement mise en réseau avec le reste. Tout est donc projection, et donc tout devient geste. L'univers devient d'une cohérence et d'une solidité impressionnantes, et nul n'est besoin d'étendre davantage ce monde, tout est déjà là. Nous ne pouvons alors que considérer que le choix fait dans Little Big Adventure 2 d'étendre l'histoire au cosmos et à une planète extraterrestre, qui subira la même force initiale de description, bien que sur un ton de propagande, n'est pas seulement une facilité d'écriture, mais une nécessité profonde, tant on ne pouvait rien ajouter au décorum sans déstabiliser l'intégralité de l'univers, de la même façon que chaque épisode de Fallout prendra place dans une zone géographique distincte. On notera néanmoins que ce mode de construction de l'univers, qui nous fait lointainement penser, toute proportion gardée, à ce qu'opérait jadis Tolkien pour la Terre du Milieu, est des plus rares. Ce n'est guère la complexité qui empêche les auteurs et autrices de faire ainsi, car Little Big Adventure possède un environnement bien moins développé que ne serait-ce le disque monde. C'est un univers d'enfants plus que de mythologues. C'est surtout que cette mécanique du geste est une vision globale de la fiction, qui s'opposerait alors à une vision davantage fonctionnelle de celle-ci.
Cinquième partie, poétique du jeu vidéo.
Achevons cette émission par une réflexion prolongeant cette dernière remarque, et plus particulièrement sur ce que nous appellerons la poétique du jeu vidéo. Poétique dans le sens fort du terme, soit ce que fabrique le jeu vidéo par son existence, son parcours et son chevillage avec les autres formes médiatiques. Car comme média, le jeu vidéo offre une certaine vision du monde. Mais comme forme d'interaction, il offre également une transformation de ce dernier. De la même façon que la poésie, forme créatrice collective des origines, modèle la façon dont nous voyons l'univers. Après tout, nos hymnes nationaux sont bien des poèmes. Le geste, et nous avons bien en français de même des chansons de gestes, nous semble à l'intersection de ces réflexions et développe une philosophie du jeu vidéo que l'on retrouve aujourd'hui au-delà de Little Big Adventure. Il s'agit cependant, et historiquement ce me semble, d'une pierre de touche notable sur cette question. Comme action consciente, il prend place dans un ensemble signifiant qui ne peut se saisir qu'en prenant en considération l'état du monde contemporain à son existence. Comme action modifiante, il définit un nouveau sens par son exercice même et déstabilise, partant, le statu quo précédent. Ce gameplay du geste se retrouve ainsi dans la frénésie plus ou moins récente des simulateurs et des jeux portant sur cette idée du type Goat Simulator ou Human Fall Flat. Quand bien même faudrait-il effectivement les prendre comme des pochades sans grande conséquence, ils ont cette vision globale du gameplay, et non une vision fonctionnelle. Tandis qu'un jeu comme Super Mario Bros. Et consorts construisent leurs univers autour des capacités du personnage, ce qui en fait un espace clos et fermé sur lui-même comme nous l'observons depuis les origines de notre émission, et comme sont construits la quasi-intégralité des jeux vidéo de l'existence. Ces jeux construisent d'abord un univers et des règles physiques, puis introduisent un avatar agissant. Quelque part, nous aurions comme une révolution du même ordre que celle opposant créationnisme et darwinisme dans le monde animal, c'est-à-dire une conception de l'univers centripète, tout ayant été fait pour notre existence, s'opposant à une conception centrifuge, l'univers existant indépendamment de nous, et nous, d'essayer d'y survivre. Le parallèle peut même se prolonger. De la même façon que les théories de l'évolution sont apparues lorsque la place de l'humain dans l'univers fut remise en question, notamment au regard des forces religieuses, ainsi le jeu vidéo change de perspective progressivement, au fur et à mesure de son inclusion dans les autres formes médiatiques, et maintenant qu'il est conscient de sa puissance signifiante. Le jeu vidéo, il faut le dire, a une influence sur notre monde, tout comme le cinéma, la musique ou la télévision. Il ne s'agit pas ici d'affirmer qu'il est responsable de telle ou telle exaction, mais il est un produit de l'esprit humain et, partant, il contient de l'humain, du bien et du mal, de la politique, de l'économie. Et sans aucun doute, certains de nos contemporains font et ont fait leur éducation par le biais du jeu vidéo. On ne saurait alors le traiter légèrement, il faut lui accorder une puissance certaine. Et l'envisager par le geste est, ce nous semble, une porte d'entrée notable sur ces questions.
Salut, c'est Delta Koch et une fois par mois, en gros, je présente la confrérie avec mes amis Akumasai, Davrous et Multa. On y parle de tous les sujets qui nous intéressent, que ce soit technologique, philosophique ou autre. Dans une ambiance désordonnée et franchouillarde, nous partagerons et nous débattrons autour de 2 à 3 sujets par épisode. Si vous aimez la technologie et surtout la bonne ambiance, venez nous rejoindre.
Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RadioKawa. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, comme radiokawa.com, sans le point, RadiokawaCom. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications.